Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Bonjour à tous. Voilà, que Dieu nous bénisse ce matin à travers cette méditation de sa parole. J'aimerais rappeler que Jésus nous a laissé ce propos. Soyez un, comme moi et le Père, nous sommes un. Donc il est question de l'unité. Alors, nous allons donc expliciter cette pensée à travers une lecture dans le livre des Actes des Apôtres. Livre des Actes des Apôtres, et nous allons lire à partir du verset 25. Peut-être pourrions-nous parler du testament de Paul, c'est possible, hein, on pourrait le qualifier, ce paragraphe, de ses volontés, de ses dernières volontés. Et maintenant voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien en cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Alors, nous allons en effet donner quelques mots sur cette pensée qui n'est peut-être pas très réjouissante, parce que Paul, après avoir exercé son ministère dans bien des contrées, dans bien des villes, des pays, va devoir prendre congé de ses amis, donc là du lieu où il se trouve, il va réunir les anciens, et va leur donner en quelque sorte quelques recommandations, exhortations, pour qu'après lui, eh bien, le royaume de Dieu, la prédication de Jésus-Christ, la vie de l'Esprit, l'entretien de la vie par la foi, par le Saint-Esprit, eh bien, puisse continuer, ce qui n'est pas forcément évident. Je vais schématiser un peu la présentation, nous allons examiner 3 aspects de notre propos ce matin. L'information, ce que Paul fait là. Il informe, il prévient, il avertit. Le 2e aspect que j'aimerais développer avec vous, c'est l'agression. L'information, l'agression. Et le 3e, c'est l'intervention de Dieu pour secourir son Église. Il y a ces 3 éléments. Parce qu'il faut le dire, de tout temps, l'Église court des risques et des périls. Eh oui, preuve nous en est donnée, s'il était nécessaire de nous le rappeler ce matin, mais je pense qu'il est plus que nécessaire de le rappeler ce matin, je vais faire une généralité, que l'Église, eh bien, est toujours menacée de désunion ou de division, ou tout simplement d'introduction de fausses doctrines ou d'autres choses semblables. Et ça, c'est une menace permanente. Il y a un proverbe populaire qui nous dit « méfiez-vous de l'eau qui dort ». Et je crois que ça, c'est mon devoir personnel en tant que pasteur, de prévenir les églises. Et de dire, eh bien, voilà, nous sommes en face de la parole de Dieu. Soit Jésus s'est complètement trompé en disant maintenant le royaume de Dieu il est déjà établi, vous allez vivre bien dans une sorte de paradis et puis finalement vous serez enlevé au ciel et puis pas de problème, pas de difficulté, ça c'est faux. Ça fait partie des choses dont un pasteur a le devoir de dire, nous sommes dans des temps difficiles. Mais il y a toujours eu des temps difficiles. Et des temps peut-être encore plus difficiles que les nôtres, mais les temps d'hier qui étaient extrêmement difficiles peuvent revenir aujourd'hui. Parce que nous connaissons un tant soit peu les enseignements de l'Apocalypse, et croyez bien que il y a un mot qui peut faire trembler, mais qui ne doit pas faire trembler les enfants de Dieu, c'est le mot grande tribulation. Et ça ne doit pas nous faire trembler, parce que finalement nous savons où nous allons, nous. Maintenant, Jésus dira dans ce que nous pouvons appeler les prophéties eschatologiques, c'est-à-dire l'annonce de son retour, première chose, veillez à ne pas être séduits. Et ça, c'est peut-être le plus grand de tous les dangers. Il peut y avoir des tremblements de terre, des cyclones et tout ce que vous voudrez, la famine, la peste et puis tout ce que nous pouvons imaginer. Mais je crois que le plus grand danger, c'est tout simplement la séduction. Alors, on va voir cela un peu. Et à quoi doit-on s'attendre dans nos communautés, dans la généralité peut-être des églises dans lesquelles nous sommes regroupés, mais également dans les églises, nous pourrions dire locales. Les attaques peuvent avoir deux provenances plutôt. Les attaques externes et les attaques internes. Permettez-moi tout simplement de préciser que les intrusions de l'extérieur, suscitent, soit dans une nation, dans un peuple, ou dans une église, l'union sacrée. Là, tout le monde se serre les coudes, parce que l'ennemi est à l'extérieur, et nous combattons l'ennemi ensemble. Et vous avez remarqué, même quand il y a des dissensions au niveau d'une nation, quand il s'agit de défendre le sol, alors à ce moment-là, même si on n'est pas du même parti, on se met tous ensemble. Là, c'est pas un danger. Parce que des heurts de l'extérieur, des combats et des luttes de l'extérieur, on en aura encore et on en aura toujours. Mais l'Église fait face. Ça, c'est une chose. Par contre, les manœuvres de l'intérieur provoquent des divisions. Alors, je voudrais simplement expliciter mon propos ce matin parce que je crois qu'il faut que l'Église soit prévenue. Il faut qu'elle soit prévenue que le grand danger n'est pas tant extérieur, même si nous avons des pressions d'une façon ou d'une autre. Mais ça, c'est pas grave. Mais elle peut venir de l'intérieur, surgir de l'intérieur, ou ressurgir de l'intérieur. Et ça, c'est une autre affaire. C'est une autre affaire, c'est un autre sujet dont Paul est en train de prévenir. Les anciens de l'église d'Éphèse. C'est pas toute la communauté qui l'a prévenu, mais il a rassemblé les anciens pour que les anciens le disent aussi. Et nous nous apercevons que derrière tout cela, il y a certainement des dispositions à prendre. Oh, on va pas mettre un policier devant la porte, comme cela est recommandé aujourd'hui avec les attaques terroristes. Nous avons reçu des consignes, moi j'ai reçu des consignes, qu'il faut faire très très attention. Alors, c'est pas ça, mais je pense que un pasteur ou des frères anciens sont des gens qui sont préposé à veiller, à surveiller, c'est tout à fait normal. À l'unité, à la paix de l'Église. Et vous êtes certainement comme moi j'apprécie la paix. Parce que je voudrais quand même vous dire, sans la paix, sans l'unité, rien ne se fera dans l'œuvre de Dieu. Mais je voudrais vous le rappeler, rien ne peut se faire quand il y a de la division, qu'il y a là des gens qui tirent à huer à dia, ce n'est pas possible, Dieu ne bénira jamais. J'en suis convaincu, après 40 ans de ministère, je suis convaincu que rien ne se fait. On végète et finalement on disparaît. Donc il faut être bien d'accord sur la question. Et si je vous tiens à ce propos, c'est que j'ai vraiment été interpellé par le Seigneur. Je vous dirai quelque chose d'ici quelques instants. Paul écrit, « Mais maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage. » Alors pour ceux qui aimaient Paul, c'est une dévastation, on va perdre notre pasteur. Pour ceux qui n'aimaient pas Paul, ils disaient, « Bravo, il s'en va. » Vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. Paul va donner à l'occasion de sages précautions et il va parler donc à ses responsables spirituels parce qu'il sait que lui va partir, mais que les autres aussi disparaîtront, parce que les ministères, les pasteurs, les autorités déléguées par Dieu se succèdent les uns après les autres. Je crois que je dois être le 8e ou 9e pasteur dans cette église de Saint-Nazaire, donc il y en a eu avant moi. Et moi, ce que j'entends, c'est qu'il y en ait d'autres après moi, et qu'ils soient meilleurs que ce que j'ai été. Et je vous le dis sans embâche, hein. C'est pas une question d'orgueil ou autre chose, mais moi je souhaite que l'œuvre de Dieu, elle avance. Et que les chrétiens soient des hommes heureux. Et que véritablement il y ait encore plus de choses. Nous soupirons tous à voir des miracles et des prodiges. Ça c'est vrai. Mais il y a encore plus grand que le miracle et le prodige, c'est une église qui est unie et qui s'aime, et qui porte les fruits de l'Esprit Saint. Alors après, les miracles et les prodiges viendront. Mais pas avant. Alors, nous avons donc ce passage. L'Église, elle demeure. L'Église, elle reste. N'allons pas dire que finalement, nous sommes indispensables. Parce que je voudrais vous dire aussi cette parole, que dans les cimetières, il n'y a que des gens indispensables. Ben oui. De leur vivant, ils pensaient qu'ils étaient indispensables. Et pourtant, ils ont été remplacés. Et ça, je crois que l'Église, c'est pareil. L'Église demeure, nous, nous passons. Et je ne veux pas vous dire que je pars demain matin. Hein. À moins que le Seigneur me prenne d'ici là. Mais c'est pour dire cette notion, vous comprenez? C'est l'Église qui est prioritaire. C'est le message qui est prioritaire. C'est pas le messager. Alors, Paul va faire la preuve de son intégrité, tout simplement, dans l'appel et la vocation qu'il a dit. Il dira, desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. Sa mission, c'était de prêcher le royaume de Dieu. Et il le rappelle à cette occasion. Un peu plus loin, si je prends dans la réflexion, c'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui, dira-t-il, que je suis pur du sang de vous tous. Quelle intégrité, hein? Car je vous ai donné tout le conseil de Dieu sans rien en cacher. Prenez donc garde à vous-même. Voilà. Voilà ce qu'il explique. Il veut que l'œuvre à laquelle il a été appelé à Éphèse soit une œuvre qui aboutisse. Une œuvre qui aille jusqu'à son terme. Et le terme, c'est pas nous qui le fixons, c'est le Seigneur qui fixe le terme d'une œuvre. Et cette œuvre, elle ne finira jamais, moi je crois. Elle commence sur la terre, mais elle finira dans le ciel. Et Paul le dit, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. Et il veut s'assurer au mieux la passation de succession. Faut y penser, hein, frères et sœurs. Hein. Faut y penser. Et c'est pas de dire, moi je m'en vais, il y a un autre qui va me prendre. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça. Il y a à la base la prière, à la recherche de la volonté de Dieu, de savoir ce que Dieu va faire. Et il connaît mieux que nous les hommes les besoins de l'Église, le caractère même de l'Église, la sensibilité de l'Église, l'œuvre que l'Église doit accomplir. Pour nous les hommes, dans le ministère, c'est toujours une symphonie inachevée. Hein. Toujours. Mais bon, le Seigneur, lui, sait où il va. Hein. Parce qu'après nous, il y en aura d'autres. Et il faut qu'il y en ait d'autres. En quantité et en qualité. C'est ça l'œuvre, me semble-t-il. Enfin, moi, c'est ma vision. Et il faut qu'il y ait aussi une mobilisation de votre part dans la prière pour savoir finalement, eh bien, quel sera l'homme providentiel. Je marque le fait. L'homme providentiel, qui lui va donner une suite. Ça sera peut-être pas dans les mêmes formes. Ça ne sera peut-être pas dans le même style. Ça ne sera peut-être pas tout à fait la même chose, parce que si vous cherchez un pasteur comme les pasteurs que vous avez eu auparavant, vous n'en trouvez pas. C'est normal. Chacun a sa personnalité. Et chacun a reçu de Dieu un don particulier. Mais néanmoins, par-delà la forme, il faut rester sur le fond. Et le fond, c'est, eh bien, faire connaître Jésus. Amener les chrétiens à l'image de Jésus-Christ, à la ressemblance de Jésus-Christ. Alors, cette passation de succession, eh bien, elle se prépare dans la prière. Paul en était tout à fait conscient. Et il le dit, « Prenez donc garde à vous-même, dira-t-il, et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu. » Moi, ça me fait plaisir quand je pense que je suis un évêque. Mais vous avez jamais vu mon chapeau ni ma tiare, hein? Ouais? Non. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est que le mot évêque, parce qu'il a été complètement déformé par la tradition religieuse. Mais complètement, hein? Évêque, archevêque, tout ce que vous voudrez, mais Ça n'a rien à voir avec le sens biblique des choses. Ouais. D'abord, Paul formule une demande qui concerne le Saint-Esprit. Vous avez été mis en place. Chacun d'entre nous, nous sommes responsables. Nous avons été appelés pour vivre dans l'Église et travailler dans l'Église. Pour les serviteurs de Dieu, à un troupeau à entretenir, sur lequel le Saint-Esprit vous a établi. Eh oui. Que ce soit les frères anciens ou un pasteur, et quel que soit chacun d'entre nous, nous sommes tous à veiller les uns sur les autres. Et c'est le Saint-Esprit qui nous a établi. Ce n'est pas un mouvement. Ce n'est pas une congrégation. Ce n'est pas une dénomination qui nous a établi. C'est le Saint-Esprit. Et si nous perdons la notion de Saint-Esprit régnant et trônant dans l'Église, eh bien, nous avons tout faux. C'est l'Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui fait les choses. Et il nous a établi évêque. Alors, disons quelques mots. Évêque, ça veut dire exactement surveillant. Ou veillant sur. Mettez dans les deux sens, c'est exactement la même chose. En quelque sorte, c'est un berger. C'est un berger, on peut le dire de cette manière. Et en grec, eh bien, c'est tout simplement épiscopos. Voilà, épiscope. Celui qui est surveillant, tout simplement. Et sa qualification ou sa qualité, c'est de prendre soin. C'est pas de faire des choses extraordinaires. C'est pas de faire des coups d'éclat et puis des effets de manche dans le domaine oratoire. Hein. C'est pas de manier le miracle, etc. C'est tout simplement de prendre soin. Ça, c'est important. Qui est une base fondamentale pour le bonheur et la paix dans l'Église. Parce que c'est une valeur, hein, tout cela. Je rappelle des choses simples. Et vous avez remarqué, le Saint-Esprit qui vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu et qui s'est acquise par son propre sang, c'est-à-dire le sang de Jésus. C'est pas le travail du serviteur de Dieu, c'est pas le travail de l'évangéliste ou du pasteur ou de ceci et cela, quel qu'il soit. Non, ce qui permet à l'Église d'être, c'est tout simplement le sang de Jésus, le sacrifice de Jésus. Cette œuvre expiatoire de Jésus, c'est ce qui fait que nous sommes. C'est pas nous qui avons inventé l'Église. Et nous ne pouvons pas dire, et dangereux quand les choses sont dites, quand on dit par exemple, c'est l'Église de Monsieur le Pasteur, ceci et cela, mais c'est faux. C'est un détournement, c'est s'approprier finalement, eh bien là, ce que Dieu est. Parce que nous ne sommes que des gérants et des dépositaires, des administrateurs. Quelquefois on l'a entendu. Je vais dans l'église de monsieur le pasteur, un tel. Alors dites jamais ça de moi, hein. Vous dites, je vais dans l'église de Jésus-Christ à Saint-Nazaire. Voilà, vous vous en souviendrez. Le sang de Christ. Et nous voyons que maintenant il va aborder avec beaucoup de solennité quelque chose qui nous interpelle. Il dira, je sais. Ah, qu'est-ce qu'il sait, Paul ? Pourquoi écrit-il ça ? Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Ça, c'est intéressant de se pencher sur ce que veut dire « je sais que ». C'est pas que c'était un voyant, Paul. C'était un homme qui était conscient de sa volonté, de son appel. Et lorsque nous avons une charge telle que Paul ou autre, nous apercevons que Dieu nous prévient et que Dieu nous informe. Il nous est dit que Dieu révèle sa volonté à ses serviteurs. Bon, ça doit être vrai, hein. Et Paul était un homme qui avait cette perspicacité et ce discernement spirituel d'un avenir proche ou lointain. Et il n'en faisait pas étalage, hein. Il le gardait pour prier. Il le gardait pour bien accomplir sa mission. Il le savait non pas pour crier à tout le monde qu'il avait quelque chose de plus que les autres. On n'est pas des voyants, hein. Non, non. Mais quelque part, Dieu nous dit les choses pour que nous puissions, eh bien là, avoir une visibilité pour prier davantage. Et que la volonté de Dieu se fasse, que la paix et l'unité dans l'Église puissent être assurées. On ne marche pas en aveugle. Et dramatique, une Église dont le pasteur est aveugle. Non pas physiquement, mais qui n'a pas de longue vue, enfin une vue plus longue. Parce que le danger, il dira, je sais que... Et pourtant, l'apôtre Paul, il en a vu des vertes et des pas mûres, hein. De toutes les couleurs, Paul. Je sais que, et il parlera à ce moment-là, il émettra une pensée que c'est un danger permanent pour l'Église dans tous les siècles. Je sais que, heureusement que c'est écrit. qu'après mon départ, quand le chat est parti, les souris dansent. Waouh ! Alors un pasteur, c'est pas un chat, d'abord. C'est pas non plus un tigre, c'est pas un éléphant, enfin c'est pas ce que, tout ce que nous pouvons... Non, c'est un berger, et il a un troupeau. Voilà, c'est peut-être un peu plus dans une meilleure configuration. Après mon départ, dira-t-il. Alors à ce moment-là, priez, peuple de Dieu, pour le choix avisé d'une autorité déléguée par Dieu, et que ce soit Dieu seul qui quelque part, eh bien, choisisse. Parce qu'il peut y avoir des affinités, hein. On peut toujours faire de la publicité pour la ville de Saint-Nazaire, parce que, bon, moi, je partirai. Mais je peux mettre une annonce, par exemple. Voilà, une belle petite église à Saint-Nazaire, bord de mer, appartement, possibilité le dimanche matin de se promener sur la plage, etc. pour un pasteur. Hein. Bon, il va peut-être y avoir des clients. Ou des gens qui vont être intéressés. Non, mais ça, c'est la passée humaine. Mais allez, là, j'exagère. Vous avez compris que j'exagérais? Oui, ben, vous me rassurez, parce que autrement. Alors, mais oui, après mon départ, l'Église, et même avant, et certainement avant, que là, à ce moment-là, l'Église se prépare. Mes frères et sœurs, je voudrais vous dire quelque chose, c'est tout simple. Qu'il n'y ait pas d'ambitieux, qu'il n'y ait pas de prétentieux, qu'il n'y ait pas d'orgueilleux, qu'il n'y ait pas d'arrivistes, qu'il n'y ait pas, comment dire, d'intéressés par des choses qui seraient attenantes au ministère et qui pourraient dire, eh bien voilà, qu'est-ce que je suis heureux là, c'est formidable. Non, nous avons besoin, et l'Église a besoin, les Églises ont besoin. Elles ont besoin d'un homme qui est choisi par Dieu. Ah oui. Alors j'espère que le Seigneur va nous envoyer, parce que là encore dans 20 ans, 30 ans, je serai encore avec vous, et moi ça me posera un problème. Oui, vous le devinez un peu, hein. Parce que justement, il s'introduira, l'image de cette introduction, enfin la pensée même de cette introduction, c'est quelque chose qui me semble un petit peu alambiqué, caché dans l'ombre, etc. Il s'introduira, ce ne sera pas quelque chose d'officiel. Il s'introduira à travers des moyens de discrétion. On ne fait pas de bruit au début. Des moyens de dissimulation, on ne dira pas tout. De tromperie et de ruse. Ah oui. Il ne vient pas le lion rugissant, mais c'est toujours la vieille méthode du serpent. Ça ne fait pas de bruit, mais une fois que c'est là, c'est là. Paul le dit pour l'église d'Éphèse. Attention! Et parce que il s'introduira des hommes qui seront comparés à des loups cruels, comme Jésus nous le dit quand il dénonce les faux prophètes dans l'évangile de Matthieu. Des loups cruels. Et ils s'élèveront au milieu de vous. Ça ne sera pas de l'extérieur. Prenant ascendance, avec peut-être des fausses apparences, mais je veux dire des prétentions, qualité oratoire, prestance, et toutes sortes de choses. Ouais, faisons attention à cela. Donc un danger interne pour une prise de pouvoir, en quelque sorte, une prise d'autorité, une mainmise, c'est-à-dire une forme de domination. C'est terrible. C'est comme ça peut-être que les choses se sont passées dans les églises traditionnelles, les églises historiques. Ça commence par un évêque et ça finit par un pape. Je suis pas candidat, hein. Mais quand même. Eh oui. Et c'est cela, dans tous les domaines, ça s'est vu, hein. Et Paul dira, mais ce sont des ennemis de la croix. S'ils ne servent pas Christ, ils se servent eux-mêmes. Et ils se serviront du troupeau, finalement, pour, eh bien, leur propre émulation, leur propre avancement et tout ce que vous voulez. Ennemis de la croix. Vous vous rendez compte, c'est terrible, hein. Moi, je trouve que c'est un des mots les plus terribles quand on dit qu'un chrétien, qui n'en est pas un, il est devenu un ennemi de la croix. C'est terrible. Un subversif, puisqu'il est parlé d'introduction subtile et tout ça. Si nous allons un peu plus loin, le verset 30 nous dit ceci, « Et qu'il s'élèvera au milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples. » Écoutez bien, les disciples, ils les entraîneront après eux. Donc là, un changement de direction. Hein. Mais alors, radical. Hein. Jusqu'ici, c'était Jésus, maintenant. On ne suit plus Jésus, on suit des hommes. On suit un enseignement d'hommes. Et ça, c'est quelque chose qui fait trembler. Un objectif fallacieux, non avoué, mais qui se met en place à travers des enseignements, toutes sortes d'altérations de la parole de Dieu. On vous dit, on vous a toujours dit que nous sommes sauvés par la foi, c'est une grâce de Dieu. Certains diront, mais pas tout à fait par la foi. Il faut quand même faire des bonnes œuvres. Il faut ceci, cela, etc. Il faut bien trouver un peu notre compte de glorification personnelle. On vous dira, mais voilà le baptême, par exemple, pour les adultes, mais vous savez, les enfants, faut quand même les garantir dès leur naissance. Enfin, toutes sortes de choses fallacieuses. Enfin, j'en pensais, ça passe hein, comme ça. Pour troubler, confondre les consciences et les esprits des croyants, pour nous ébranler, pour nous amener, eh bien finalement, à ne plus savoir où nous en sommes. Quand on prêche Jésus, et c'est la vérité, et le Saint-Esprit est l'esprit de la vérité, on n'en sortira pas. Faut être ferme, hein. Ou alors on fait autre chose. Ouais, on fait autre chose. Mais pas dans le domaine spirituel. Et là, il y a naturellement, à travers ce que Paul est en train d'enseigner, comme une manœuvre, pas comme, une manœuvre subtile, c'est-à-dire c'est entraîner les chrétiens qui s'y prêtent, peut-être les chrétiens les plus faibles, les plus vulnérables, les agneaux, nous pourrions dire, eh bien, ne pas faire la différence entre toutes les formes qui sont présentées, parce que les formes, il peut y en avoir de multiples, les apparences, et puis le fond. Entraîner à les suivre, eux, en les détachant de la suprême autorité qui est Jésus, pour en faire, eh bien, leur adepte. Parce que là, c'est pas des disciples à ce moment-là, ce sont des adeptes. Et c'est comme ça qu'une église devient une secte. Ouais, elle n'a plus rien à voir avec, finalement, l'enseignement de Jésus. Dernière recommandation dans ce texte, c'est celle-ci. Veillez donc, dira-t-il, à ses amis, d'Éphèse. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé jour et nuit d'exhorter avec larmes chacun de vous. Moi, Paul était un homme extraordinaire, vous en rendez compte. Pendant des années, l'église d'Éphèse et puis bien d'autres, il a tremblé, d'ailleurs il le dira, il a pleuré, il a souffert pour les églises. Eh bien, c'est ça un évêque, c'est ça un pasteur, c'est ça un frère ancien qui a la tâche, eh bien, d'être un berger. J'y inclus les frères anciens parce que ils ont leur rôle. Et quand on se dévoue, quand on vit par amour et que l'on se donne comme cela, Paul dira, mais bien sûr, veillez, ça il faut toujours être vigilant, en comparant, en se souvenant de ce que Paul était pour les Éphésiens, et de ce que il y a eu aussi des pasteurs qui ont donné leur vie. Il y a des frères dans le passé, il y en a encore aujourd'hui, qui sont tout entiers, dont le cœur est tout entier à Jésus et à la parole de Dieu. Un autre texte nous dit que Dieu est celui qui démasque les usurpateurs. Ah oui. Dans la lettre de Paul à Tite, il y a un texte qui est quand même assez évident, parce que là c'est quand même un critère de pour démasquer, pour savoir qui est qui et qui fait quoi. Écoutez, je lis le texte. Tite, chapitre 1er. Il est dit cette parole qui m'a toujours intrigué et qui est quand même une référence peut-être pour mesurer ce qui est vrai et ce qui est faux. Il dira, mais les faux, les usurpateurs, ceux qui s'introduisent, il nous est dit au verset 16, ils font profession de connaître Dieu, ils parlent de leur foi, ils disent qu'ils sont à Jésus-Christ, ils vous diront même qu'ils se sont convertis, qu'ils là sont nés de nouveau, mais il n'y a pas de fruit. Ouais, il y a des œuvres, mais si ce sont des œuvres illusoires, d'où viennent-elles? Quelle est la nature de ces œuvres? Mais là, il est question de fruits. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres. Parce qu'on ne juge pas l'arbre finalement à ses feuilles, mais on juge l'arbre à ses fruits. Et où est la racine de l'arbre? Si elle est en Christ, ce sera de bons fruits. Si elle est en dehors de Christ, ben on va pouvoir deviner un petit peu ce qui se passe. Mais ils le renient par leurs œuvres. Il est dit même, étant abominable, rebelle, incapable d'aucune bonne œuvre. Et au chapitre 3, toujours de Tite, et au verset 11, 10 et 11, il est dit ceci. Et ça, c'est un avertissement. Éloigne de toi, après un second avertissement, celui qui provoque des divisions. Mes frères et sœurs, il faut que nous puissions avoir cette réactivité de jugement, que quand quelqu'un commence à critiquer, à parler, à dénigrer l'Église, à dénigrer un frère ancien, le pasteur, les uns et les autres, eh bien, méfions-nous. Et là, il faut que ça soit acquis, hein. Parce que l'Église est en danger. Je dis pas maintenant. Mais l'Église est en danger. Ici, on ne critique pas. Ici, on ne dit pas des choses qui ne sont pas à dire. Le langage qui doit être un langage de vérité et un langage qui doit être celui de l'amour, inspiré par le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit nous inspirera jamais autre chose que l'amour. La patience, la tolérance, toutes ces qualités que l'on appelle les fruits de l'Esprit, qui provoquent des divisions. Sache qu'un tel homme de cette espèce est perverti. Voilà le jugement qui est donné, et qu'il pêche en se condamnant lui-même, parce que non seulement il va entraîner les autres à se perdre, mais il est perdu lui-même. Est-ce qu'un aveugle va suivre un aveugle? Non. Pas possible. Maintenant, je voudrais dire quelque chose de particulier. Après l'information des dangers, ce que nous venons de voir, Paul a informé l'église d'Éphèse, c'est l'information. Voici l'agression. Alors, je vais appeler ça comme ça, hein, avec mon langage à moi. Voici l'agression. Ce que je voudrais dire en peu de mots, je parle de l'agression de l'Église. C'est pas d'une personne ou de personne à personne, c'est l'agression de l'Église. Je voudrais vous dire que j'ai fait une expérience. Et je vous parle pas souvent comme ça. Hein. Je dirais même une expérience avec une pensée révélatrice de Dieu. Je veux pas dire que j'ai des visions et que je m'appelle Jeanne d'Arc. Hein? Non. Mais je me souviens d'un temps où j'étais déjà à Saint-Nazaire, où véritablement, sans que je recherche, mais d'une manière spontanée, Dieu m'a montré quelque chose. Alors je suis pas un grand personnage, hein, et surtout n'allez pas ne faire autre chose et penser autre chose de moi. Mais comme une parole qui est venue dans mon cœur instantanément, et ça fait déjà plusieurs années, 5-6 ans, et je l'ai gardé toujours en souvenir. Parce que quelquefois, on a besoin de se souvenir. Faut pas oublier. Comme une attaque sournoise, perpétrée contre l'Église, contre la paix de l'Église et l'unité de l'Église. Voilà. Bon. Par-delà, finalement, le contexte matériel et physique. Et le fait aggravant de cette affaire, c'était un texte qui m'est venu. Je vais vous le dire. Un texte où l'attaque ou l'agression se portait contre une église ou l'église, contre un peuple, le peuple de Dieu, qui était en convalescence. Comme on peut l'être lorsqu'on ressort d'une grave maladie, on est en convalescence, donc on est fragile. Et quand quelqu'un est fragile, on le respecte. Une église en convalescence, une église en reconstruction. Sans prétention, je pense que le Seigneur nous a donné d'être des réparateurs des brèches, qui que nous soyons. Et une église qui soupirait après retrouver sa paix et sa quiétude. Alors on va lire ce texte, parce que c'est ce texte-là que j'ai eu. Dans Ézéchiel, chapitre 38, je ne sais pas si je dois faire un commentaire, parce que ça parle de lui-même. Ézéchiel chapitre 38, et on va voir de quoi il s'agit. Et au verset 8 à 12. Vous savez, quelquefois, il y a des révélations comme ça, des textes qu'on a lus dans notre Bible, parce qu'on lit la Bible, et qu'on n'a pas mémorisé d'une manière particulière, on l'a eu. Mais quand véritablement ça fait force, alors on se dit il y a quelque chose, hein. Dieu parle. Et si j'en parle des années après, c'est parce que finalement, eh bien, l'Église a besoin d'être avertie. Écoutez bien. C'est l'histoire d'un peuple qui va attaquer la nation d'Israël. Un peuple qui c'est en l'occurrence Gog. Alors, peuple du Nord, finalement, mais bon, ça c'est peu d'importance. Écoutez bien verset 8. Après bien des jours, Dieu parle à ce peuple attaquant, assaillant. Tu seras à leur tête, dans la suite des années, tu marcheras contre le pays dont les habitants échappés de l'épée auront été rassemblés d'entre plusieurs peuples, sur les montagnes d'Israël, longtemps désertes, retirés du milieu des peuples. Ils seront tous en sécurité dans leur demeure. Remarquez bien ça, en sécurité dans leur demeure. Tu monteras. Tu t'avanceras comme une tempête. Tu seras comme une nuée qui va couvrir le pays, toi et tes troupes, et les nombreux peuples avec toi. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. En ce jour-là, des pensées s'élèveront dans ton cœur et tu formeras de mauvais desseins. Tu diras, je monterai contre un pays ouvert. Je fonderai sur des hommes tranquilles, en sécurité, dans leur demeure et qui habitent tous dans des villes sans murailles et n'ayant ni verrou ni porte. J'irai faire du butin et me livrer au pillage, porter la main sur des ruines maintenant habitées, sur un peuple recueilli du milieu des nations, ayant des troupeaux et des propriétés, et occupant les lieux élevés du pays. Cette parole, je ne l'ai pas oubliée. Je ne l'ai pas oubliée. Il y a deux aspects dans ce texte. Il y a d'abord l'aspect prophétique dont nous révèle le livre de l'Apocalypse, que dans les derniers temps, avant les derniers jours, le jugement de Dieu, Israël, pour ne parler que de lui, puisque c'est le contexte, sera investi par une multitude de nations qui viendra le détruire. Aujourd'hui, c'est une réalité. Si vous allez en Israël, c'est un peuple, malgré qu'il y ait la guerre. Mais c'est pas une guerre avec des canons et tout ça. Malgré qu'il y ait des troubles en permanence. Mais c'est un peuple qui a construit des maisons, qui a construit des villes. Un peuple qui est en pleine prospérité. Et dans la fin des temps, les nations vont se liguer pour dire, maintenant, rayons de la carte Israël. Ça, c'est le texte, le contexte prophétique. Maintenant, il y a un autre aspect, c'est comme ça que je l'ai pensé moi-même. C'est tout simplement une instruction pour l'Église d'aujourd'hui. Et ça, ça vaut véritablement d'y prêter attention pour la suite. Dans le verset 8, il nous est dit qu'un peuple ennemi va se lever. Ouais. Il va se lever pour aller faire la guerre. Et l'attaque est sournoise, sans préavis. Parce que ce peuple assaillant, qui est l'image du mal, du destructeur, va s'introduire et va essayer de dominer et de prendre possession. Et nous voyons que cette attaque va être sournoise, je l'ai dit, parce qu'il va attaquer des hommes et des femmes, qui en l'occurrence Israël, qui sont en sécurité dans leur demeure. Et ça, je dis que c'est ignoble, que c'est honteux. Quand il y a guerre entre deux nations, pour des raisons ou pour d'autres, voilà, véhilité d'une manière ou d'une autre, mais qu'il y a un accord, déclaration de guerre, ce qui est tout à fait anormal. Mais quand on va attaquer des gens qui sont en convalescence, quand on va attaquer des gens ou un peuple ou une église qui se relève, qui est en train de se reconstituer, qui est en train de se refaire, et que l'on l'attaque d'une manière traite, attention, le Seigneur va parler. Parce que c'est honteux. C'est ignoble. C'est inqualifiable. Je suis sévère, hein. Mais je sais de quoi je parle. Il nous est parlé de la soudaineté de l'agresseur. Au verset 9. Tu monteras, tu t'avanceras comme une tempête. Tu seras comme une nuée qui va couvrir le pays, toi et toutes tes troupes et les nombreux peuples qui sont avec toi. Comme un ouragan, comme un souffle violent qui va créer la stupeur chez des gens qui ne sont pas préparés, qui n'y ont pas pensé, des gens qui veulent vivre en paix, des gens qui veulent vivre tout simplement, correctement, tranquille. Et que là, on les prend au collet et on leur dit maintenant, on vous détruit. Quand l'ennemi viendrait comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettrait en fuite. Vous connaissez Ésaïe chapitre 59. On ne touche pas à l'Église du Seigneur. On ne touche pas à l'Église du Seigneur. Il vivait en paix. Il commençait à reprendre de l'espoir. Il commençait à se refaire une vie nouvelle sous le regard de Dieu. Et là, on va les attaquer d'une manière inqualifiable, innommable. Verset 10 nous dit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, en ce jour-là, et il parle de l'ennemi là. des pensées s'élèveront dans ton cœur. Vous savez, ces loups cruels dont nous avons parlé tout à l'heure, ça commence par la pensée, ensuite ça finit par l'enseignement, etc. Des loups cruels, ils s'élèveront dans ton cœur. Et à ce moment-là, puisque la racine n'est pas le ciel mais l'enfer, alors tu formeras de mauvais desseins. Détruisons, mettons par terre, confondons, choquons les esprits et les consciences, fermons les portes de l'Église, qu'elle n'existe plus. Nous l'avons vécu, mes frères et sœurs. Où certains ont dit, il faut fermer l'Église. Après nous, le déluge. Et faire toutes sortes de manœuvres à l'extérieur, toutes sortes de manœuvres à l'extérieur, voire même auprès des autorités, pour que soit nous soyons considérés comme une secte, que nous n'ayons pas plus de lieu de culte. C'est à pleurer, mes frères. À pleurer. Que l'extérieur nous fasse la guerre, d'accord. Mais que ce soit à l'intérieur, c'est honteux. Je vous en ai jamais parlé. J'en parle maintenant, parce qu'il faut lever la tête. Oui, il faut relever la tête. Mais soyez rassurés, le Seigneur défend son peuple. Comment de telles pensées peuvent monter tu à former de mauvais desseins? Comment? D'où viennent ces pensées? Ainsi par le Seigneur, en ce jour-là, des pensées s'élèveront, tu formeras de mauvais desseins. Tu diras, je monterai contre un pays ouvert. Un pays sans préparation, un pays qui ne demande que finalement, eh bien là, à vivre. Tu diras, je fondrai sur des hommes tranquilles et en sécurité dans leur demeure. Il y a une chose qui fait du mal quand on est responsable d'une église. C'est de voir le travail qui est détruit, piétiné, saveté. C'est terrible ça. Un ouvrier dans n'importe quelle discipline professionnelle ne peut pas se résigner à voir une œuvre de longues années, une entreprise ou des choses comme ça, piétiner et bafouer par un revers de main. C'est pas possible. Parce que nous y avons mis notre vie. Et là, on voit que cet ennemi, Gog, ne fait aucun cas de la vie des autres. Parce qu'il y a de la préméditation criminelle. Tu diras, je monterai, je fondrai, profitant d'un effet de surprise, afin d'évancer, de paralyser de toute défense possible. On peut pas se défendre. Et l'état aggravant, c'est que l'attaque a été menée contre des hommes, contre un peuple, des hommes tranquilles, en sécurité, chez eux, des villes sans murailles, ni porte ni verrou. Comment peut-on concevoir des choses pareilles? Moi, je veux dire que ça ne peut pas venir de Dieu. Ça ne peut venir que du diable. Parce que notre ennemi, c'est pas les hommes, et je tiens à vous le dire, même peut-être nos adversaires qui ont été les plus redoutables. C'est pas les hommes, mais c'est le diable. Vous savez que le grand ennemi, la grande rage du diable, c'est de détruire l'Église de Jésus-Christ. Ah, ça, c'est son truc, hein. Je peux vous dire que il s'y emploie depuis des millénaires. Mais nous, faut que nous soyons au courant que c'est des risques et des périls. Voilà ces assaillants sans scrupules. Profiter de l'innocence et de la confiance pour faire le mal. Juger de toute chose. Retenez ce qui est bien et rejetez ce qui est mal. Vous allez me dire, c'est très primaire, mais c'est essentiel pour nous, hein. Essentiel pour nous. Un projet pervers et malveillant. Au verset 12. Je ferai, l'adversaire dit, j'irai faire du butin et me livrer au pillage. Porter la main sur des ruines maintenant habitées, sur un peuple recueilli du milieu des nations, ayant des troupeaux et des propriétés, et occupant, de par Dieu, des lieux élevés du pays. Oui, parce que, si nous prenons que l'histoire d'Israël, Israël a souvent été dans l'humiliation, dans l'exil, dans la déportation, mais c'est Dieu qui a relevé son peuple à chaque fois. Et qu'il l'a mis sur les lieux élevés. Et quand c'est Dieu qui met sur les lieux élevés, ça vient à dire que quand Dieu ouvre une porte, personne ne peut la faire refermer, et quand il la ferme, personne ne peut l'ouvrir. Et l'Église n'a rien à craindre. Si nous vivons notre vie comme il se doit, dans sa pensée, dans sa volonté, dans l'amour fraternel. Pillage, butin, porter la main. Il y a un mot qui revient aujourd'hui très vite, et très souvent c'est le mot terrorisme. Ben, le diable c'est un terroriste, et il a des hommes de main. Odieuse, traîtrise, en profitant de victimes, appelle, remis ou rétablit des blessures précédentes. Des ruines, tu viendras sur des ruines maintenant habitées, pour recueillir finalement tout ton profit dans tout cela, redresser. Alors les châtiments, des outrages faits à Dieu et non pas aux hommes, mais des outrages faits à Dieu et à l'Église, à son Église, nous est donné, c'est verset 22. Dieu dit alors à ce moment-là, « J'exercerai mes jugements contre lui par la peste et le sang, par une pluie violente et des pierres de grêle. Je ferai pleuvoir du feu et du soufre sur lui et sur ses troupes et sur de nombreux peuples qui se seront mis avec lui. » Je suis pas un prédicateur de jugement, hein, ça vous le savez. Mais moi je me dis que celui qui mérite d'être repris et qui rédit le coup sera blessé promptement et sans remède. Un frère, il y a quelques années, est venu ici. Il ne connaissait pas la situation que nous vivions ici à Saint-Nazaire. Et prophétiquement, deux fois. Une fois dans le culte et une fois l'après-midi, il a prophétisé que celui qui rédit le coup et qui ne veut pas sera brisé promptement et sans remède. On ne plaisante pas avec l'œuvre de Dieu, mes frères et sœurs. On ne plaisante pas avec l'œuvre de Dieu. Dieu délivre son peuple. Troisième aspect, l'intervention et le secours de Dieu. Ésaïe, chapitre 54. Et là, il y a de l'espoir. On ne plaisante pas avec l'œuvre de Dieu. On ne vient pas attaquer des gens tranquilles et qui veulent vivre en paix, qui veulent vivre leur foi, et qui veulent vivre leur foi avec une bonne conscience. Je vous ai dit donc 54:14. Et c'est Dieu, autant dans l'agression, Dieu parlait à l'agresseur, maintenant il va parler à ceux qui sont oppressés. Écoutez. 54:14. Tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Et la frayeur, car elle ne s'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se lidera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais, Dieu dit, j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit Dieu. Ça, c'est quelque chose qui nous réconforte. Il y a eu l'information, Paul, à Éphèse, dit « Attention, restons l'œil ouvert, soyons vigilants et prudents. » Il y a l'agression qui est menée par l'ennemi, mais d'une manière traite, insidieuse, soudaine, violente. Et il y a l'intervention de Dieu qui délivre. Le verset 14, dans notre texte que nous avons lu, nous dit en substance que la justice apparaît tôt ou tard. Et je voudrais simplement encourager ceux qui vivent des moments difficiles, d'une manière ou d'une autre, dans leur vie personnelle peut-être, et peut-être si nous le mettons dans le contexte de l'Église qui peut être menacée, Dieu fait justice tôt ou tard. Et ça, il faut toujours croire que si nous devons attendre, c'est qu'il y ait une école pour nous, une école d'espérance, une école de foi, une école de patience, et de soupirer comme la pauvre veuve devant le juge inique, jusque à quand, Seigneur? Et Dieu lui répond, mais je n'oublie personne. Et Dieu ne ferait-il pas justice à ceux qui crient à lui jour et nuit? Un homme, une femme peut crier, une église peut crier, mais le Seigneur viendra toujours nous délivrer. Parce que la foi bannit la peur. N'aie pas peur, ne t'effraie pas, n'aie pas de crainte. C'est moi qui suis avec toi, je t'accompagne. Verset 15 nous dit que toutes les conspirations et les complots ne peuvent venir de Dieu. C'est pas Dieu qui est à l'origine du mal. Alors mes frères et sœurs, arrêtons de penser que Dieu envoie le mal. Dieu n'envoie que le bien. Parce que quelquefois nous avons des culpabilités, des déchirements intérieurs, et tout ça en disant, mais c'est Dieu qui envoie ça. Mais Dieu n'envoie pas ça. Il dit, mais si l'on forme des complots, ça ne viendra pas de moi. Alors pas de confusion dans notre esprit, hein, n'est-ce pas? Au contraire, c'est lui qui les déjoue, mais il ne nous dit pas comment il va le faire. Et ça nous impatiente en disant, si tu pouvais me dire un petit peu, lève un petit peu le coin du voile, comment tu vas faire? Mais Dieu nous dit, t'as pas à savoir comment je vais faire, mais je vais le faire. C'est bien le résultat qui compte, non? Et il nous est dit dans le livre des Proverbes que la malédiction sans cause n'aura aucun effet. Alors n'ayez pas peur de, quand quelqu'un dit du mal, parce que malédiction c'est mal et dire, diction, dire du mal à quelqu'un. Vous tracassez pas, ça n'ira pas plus loin, parce que ça c'est une promesse. Le verset 16 nous dit que Dieu est souverain en tout et partout. L'intervention, l'intention même de détruire est déjà retournée contre son auteur. Et l'agresseur est vaincu et la victime délivrée et secourue. Celui qui tend un piège, une fosse, qui ouvre une fosse à son ennemi, eh bien c'est celui qui a ouvert la fosse qui va tomber lui-même à un moment donné. C'est ce que ça veut dire, c'est ce qui s'est passé. Hein, Gog, c'est ce qui s'est passé. Avec une furie dévastatrice, a dit, moi je mettrai Israël par terre, je vais le détruire, que son nom disparaisse même de dessous les cieux. Eh bien, c'est le contraire qui s'est passé. Hein. J'ai créé le destructeur qui a brisé l'arme elle-même. Dieu est souverain, mes frères et sœurs. Ça, il faut que nous puissions arriver à un degré de foi où nous pensons que Dieu est souverain. Absolument, il est infini. Verset 17 nous est peut-être relaté par un psaume pour nous consoler. Quand le psaume 91, quand il est dit ceci, mais c'est lui, c'est Dieu, qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, pour ceux qui sont en guerre, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein jour, en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Le Seigneur véritablement veille sur nous. Il veille sur son Église. Je ne veux pas parler au personnel, mais il veille sur son Église. Quoi qu'il en soit, il n'y a que Dieu qui puisse réduire à néant les intentions mauvaises, voire même peut-être maléfiques. Il n'y a que lui. Et changer ces mêmes intentions en bénédictions au profit de l'agressé, tout simplement. Toute langue qui s'élèvera contre toi en justice, nous dit le texte, parce que c'est une autre arme, autrement plus dangereuse peut-être qu'une épée qui tue en usant du mensonge, de la calomnie et de la diffamation. Combien l'Église de Jésus-Christ a été calomniée à travers les siècles? Combien? N'y a-t-il que la vérité qui triomphe de la fausseté dévoilée au su et au vu de tous? C'est qu'à un moment donné, tout est mis en lumière. Et c'est Dieu qui va le permettre. Ce que tu as dit dans le secret, Dieu va le mettre au su et au vu. On l'a vu, hein, quelquefois, ça. Je peux vous dire que ça fait un drôle d'effet, hein. Ouais. Et il y a une promesse absolue aux hommes droits, aux hommes qui ont le cœur droit, dont le cœur est tout entier à Dieu. Tel est l'héritage et le salut des serviteurs de Dieu. Quand je dis serviteur, on l'étend à chaque frère et chaque sœur chrétien. À chaque enfant de Dieu, tel est l'héritage et le salut. C'est un privilège pour chacun d'entre nous, parce que Dieu nous a fait la promesse qu'il ne nous abandonnerait jamais. parce qu'il sait très bien que l'œuvre de Dieu, c'est difficile. Conduire une église, c'est difficile. Il sait très bien que vivre sa vie chrétienne, c'est difficile. Il sait très bien que nous sommes en but avec tout ce qu'il peut y avoir de l'extérieur. Et il nous a fait la promesse, eh bien, qu'il nous délivrerait. Cette parole, tel est l'héritage. Un héritage, on sait, parce que nous sommes fils et filles, on sait que ça nous reviendra parce que nous sommes authentiquement des enfants de Dieu. C'est l'héritage et nous l'aurons de plein droit. Alors, en conclusion, moi je pense qu'il faut se serrer les coudes, mes frères et sœurs, pour préserver la paix aujourd'hui et demain. Il faut se serrer les coudes parce qu'il y a des saboteurs d'unité. Les mots sont très désagréables à dire, mais c'est pourtant une réalité. Quand ça tourne rond, il y en a toujours qui veulent que ça tourne carré. Quand ça va trop bien, ils veulent que ça aille mal. Et ça, c'est pas possible. Et l'Église est exposée à tout ça. Saboteur d'unité. Parce que les portes de l'enfer ne prévaudraient pas contre mon Église, a dit Jésus. Certainement pas. Et Zacharie, pour terminer, nous dit cette parole. Ces mots, chapitre 2, verset 8. Zacharie 2, 8. Car ainsi parle l'Éternel des armées, après cela, après les combats, après les pleurs, après les dissuasions, après tout ce qu'ont pu faire les assaillants, après cela viendra la gloire. Moi je trouve que c'est formidable. Viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillé, car celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. Frères et sœurs, nous n'avons rien à craindre. Et une chose qui est certaine, je vous le dis, Paul disait, je vous exhorte et je vous en conjure. Soyons unis les uns les autres, parce qu'il s'introduira. Il s'introduira, ou il peut s'introduire, des loups cruels qui viendront pour prendre les disciples de Jésus-Christ et en faire leurs adeptes. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Et pardonnez-moi un petit peu ces choses un peu trop peut-être subjective, mais c'est pourtant la réalité, et Dieu m'a mis cette semaine à cœur de vous en parler. Que Dieu nous bénisse. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier, parce que tu nous as appris à avoir un juste discernement, en tous les cas nous te le demandons. Tu nous as appris à apprendre à discerner ce qui est bien et ce qui est mauvais, ce qui est bon, ce qui est injuste, ce qui est pur et ce qui est impur.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.